Il a payé du prix de sa vie. Et nous voulons vivre cette joie-là. Il faut qu'on l'expérimente, il faut qu'on la vive au quotidien. Il faut qu'on la protège et il faut qu'on l'applique dans toutes les sphères de nos vies. La dernière fois que nous avons parlé ensemble, Bible en main, au sujet de cette joie que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs, nous nous sommes arrêtés sur cette joie fondamentale, être heureux d'exister, heureux de vivre. Il y a des gens heureux de vivre ici ? Amen. Et Dieu veut que ce soit une réalité pour nous tous. Nous avons brièvement, comme ça, en faisant un petit rappel, nous avons évoqué le fait que pour vivre heureux, nous avons besoin d'être délivrés de l'emprise du passé. Et Dieu fait des œuvres de guérison magnifiques. Nous avons évoqué le fait aussi que nous avons besoin, pour être heureux, de dominer les frustrations du présent. Toutes les choses qui ne se passent pas, qui ne sont pas à l'instant présent, comme je voudrais qu'elles soient. On peut faire des fixations, on peut se rendre malade avec les choses qui ne sont pas comme nous voudrions qu'elles soient. Alors qu'il est possible, en s'inscrivant dans la foi et dans la confiance en Dieu, en valorisant les vraies valeurs, d'être heureux, même quand on n'a pas l'idéal absolu sous nos yeux à chaque instant. Et puis la troisième piste, c'était de, par la foi, dominer les peurs de l'avenir. L'avenir vous fait peur ? Ça pourrait à des moments. Et nous avons besoin de veiller, parce qu'il arrive de droite et de gauche des signaux qui pourraient à des moments nous saisir. Avec tout ce qu'on entend, on parlera tout à l'heure de certaines choses, mais la Bible nous encourage à nous abandonner dans la foi et à même mener le combat, le bon combat, le combat de la foi. Comme si la foi ne s'installait pas naturellement dans un cœur, mais comme s'il fallait combattre pour qu'elle règne. Effectivement, il faut que nous veillions sur nos pensées, sur différentes choses pour garder cette joie de vivre par rapport à l'avenir aussi, cette peur de l'avenir qui pourrait nous voler la joie de vivre, la joie d'exister. Aujourd'hui, nous allons un peu plus loin. Je voudrais parler avec vous de quelque chose qui peut être un peu mystérieux dans le titre, comme ça, quand c'est dit brièvement. Je voudrais vous parler d'être heureux à la fin. Être heureux à la fin, ça veut dire être heureux au bon moment. Vous avez tous participé à des photos de groupe, à l'occasion d'un mariage, d'une fête quelconque, d'une retrouvaille familiale, d'un rassemblement de famille. Et vous êtes là à 8, 10 ou 100 parfois, et le photographe vous laisse parler, et puis à un moment, il essaye de vous rassembler. Et peu importe si pendant que les uns les autres sont en train de discuter, de s'approcher, vous discutez avec le voisin, peu importe si pendant que le photographe règle son flash, vous baillez aux corneilles, c'est pas grave. Ces moments-là, vous pouvez, tant que ça ne fait que passer. Mais il y a un moment où le photographe appuie sur le bouton, et à ce moment-là, il faut que vous ayez le sourire sur les lèvres. Parce que cette image-là, elle va durer, elle va traverser les années, et si elle ne vous met pas en valeur, quelqu'un saura vous la ressortir un jour, n'est-ce pas ? Il y a toujours quelqu'un pour vous dire « regarde-toi » à un moment, hein, à un rendez-vous de famille, à quelque chose, « regarde-toi ». Ou alors vous allez la faire disparaître, cette photo. Et la vie est ainsi faite. La vie, comme ce moment où on s'apprête à fixer la photo, à figer la photo, la vie nous permet de passer par plein d'émotions. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment où les choses vont être figées pour l'éternité, nous soyons avec un sourire sur les lèvres. Et c'est pour ça que je vous parle d'être heureux à la fin. Vous connaissez tellement bien les quelques versets, les quelques paroles que Jésus a adressées à la foule sur le mont des Oliviers, lorsqu'il disait à tous ceux qui l'entouraient, « Heureux les affligés !» Car ils seront consolés, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif au présent de la justice, qui trouvent qu'il n'y a pas assez de justice dans le monde et dans la vie qu'ils mènent, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ceux qui, on lisait ça hein, avec Guy Galifot la semaine dernière, heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et ce que Jésus est en train de dire ici, si on veut résumer ces différentes affirmations, ce que Jésus dit, c'est « Heureux ceux qui font ce qu'il faut aujourd'hui pour être heureux à la fin. Heureux ceux qui actuellement sont affligés, parce qu'eux, ils seront avec un grand sourire sur la photo finale qui figera leur visage pour l'éternité. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, parce qu'ils hériteront la terre sur la photo finale. » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce que leur estomac gargouille aujourd'hui, mais ils auront le visage réjoui de quelqu'un qui est rassasié sur la photo finale. Ce que nous vivons sur cette terre ne fait que passer. C'est fluctuant. Ce qui est important par-dessus tout, c'est qu'à la fin de l'histoire, le sourire soit fixé sur nos visages et demeure pour l'éternité. Amen. C'est le plan de Dieu. Il faut que nous l'adoptions pour nos vies. Heureux ceux qui font ce qu'il faut aujourd'hui pour être heureux à la fin. Heureux ceux qui se donnent la peine qu'il faut pour élever leurs enfants dans les voies de Dieu, en priant régulièrement avec eux, en les nourrissant de la parole, en les entourant de témoignages, en leur offrant les musiques chrétiennes qu'ils peuvent leur offrir, des films, tout ce qui peut stimuler leur foi. Des bonnes compagnies à l'église qui font tout ce qu'il faut pour multiplier les bonnes influences et les occasions de salut, qui les habituent à la maison de Dieu. C'est un travail quand on est parent de jeunes enfants, ça c'est tout un travail. Ajouter à tout ce qu'il y a à faire ce moment de prière, ce moment de partage, ce moment de transmission, avec tous les investissements qu'il y a à faire, investir quand même pour que les enfants aient de la musique chrétienne à la maison, puis leur musique à eux, n'est-ce pas ? La musique qu'ils aiment tourner en boucle, parce que pendant que la musique chrétienne tourne en boucle, même s'il y a de la batterie ou que ça fait plus de bruit que vous ne voudriez, c'est des paroles de Dieu qui tournent en boucle dans la maison. Heureux, par exemple, les parents qui font ce qu'il faut aujourd'hui pour que dans la famille, ce soit un sourire qui soit figé sur les lèvres à long terme. Heureux les jeunes, les hommes et les femmes qui se font mal ou peur peut-être aujourd'hui en renonçant au péché, ou en se coupant virtuellement un membre comme la parole l'enseigne, afin de rentrer tout entier dans le salut de Dieu. Heureux ceux qui livrent un combat. Une personne que je voyais hier, je ne l'avais pas vue depuis, si je ne me trompe pas, 8-10 ans. Et je la retrouvais, et elle me dit « J'ai pris mon baptême il y a un an. » J'ai dit « Super, c'était quoi ton chemin ?» Il y a un moment où j'ai pris conscience que si je voulais vraiment la bénédiction de Dieu, il fallait que je coupe avec certaines choses. Et quand j'ai coupé avec certaines choses, ça m'a vraiment fait mal. J'ai repoussé pendant des années ce moment où il fallait couper. Mais quand j'ai coupé, j'ai trouvé tout ce que je cherchais depuis si longtemps. Il y a un moment où heureux ceux qui maintenant coupent, ceux qui tranchent maintenant, ceux qui arrachent des racines de leur cœur, ça peut arracher, ça peut faire un peu mal. Parce qu'ils vont entrer dans le salut de Dieu puis leur joie sera éternelle. Heureux ceux qui savent s'éloigner des fausses joies du monde pour verser aussi parfois des larmes dans la prière afin de posséder les choses d'en haut. Parce que demain, les rôles seront inversés. Beaucoup de ceux qui rient aujourd'hui, malheureusement, parce que ce n'est pas notre vœu, beaucoup de ceux qui rient avec insouciance aujourd'hui pleureront demain. Tandis que ceux qui pleurent, qui sèment avec larmes, moissonneront demain avec quelque chose comme des chants d'allégresse. Alléluia. C'est le programme de Dieu. Heureuse l'Église qui s'apprête à relever les manches aujourd'hui pour préparer l'avenir, car dans quelques années, elle en cueillera le fruit. Heureux ceux qui font ce qu'il faut dans le présent pour être heureux dans l'avenir. C'est là que ça compte, c'est là que ça se passe. En réalité, ça vient rejoindre un petit proverbe que vous connaissez bien. Rire à bien, et c'est un peu ça, qui rira le dernier. C'est le dernier sourire, c'est comment on est au moment où on bascule dans l'éternité. C'est ça qui vaut tout le reste, qui vaut plus que tout le reste. J'aimerais aujourd'hui vous entraîner dans le livre d'Esther. J'aime le livre d'Esther parce qu'il contient des peines. Esther est quand même une orpheline qui a été maltraitée, préparée pour être presque jetée en pâture à un roi aux pratiques douteuses. C'est la vie d'Esther, ça. Elle a subi des menaces, il s'en est fallu de peu, c'était programmé, menaces de génocide. Elle et tout son peuple, tout le peuple juif, devaient disparaître de la planète Terre et le jour et l'heure étaient déjà arrêtés. Vous imaginez la frayeur ? Et où que vous alliez, vous ne pouvez pas échapper parce que le monde entier de l'époque, l'Empire perse en entier, était sous la domination du même empereur qui avait autorisé ce fait-là. Mais ce que j'aime, c'est que le livre qui contient de la peine, qui contient des menaces, qui contient des choses qui ressemblent à la vie, se finit dans la joie autour d'un banquet, tout comme notre histoire à vous et à moi est appelée à se finir dans la joie autour d'un banquet dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Amen, c'est tout ce que ça vous fait ? Et ça ressemble à la vie, mais c'est comme ça que Dieu veut que ça finisse, autour d'un banquet. On n'est pas dans une histoire de Astérix et Obélix. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est la Bible. C'est une prophétie. C'est un appel. C'est une porte ouverte par Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Mais voilà la question que nous allons nous poser en survolant ce matin le livre d'Esther. Comment, comme Esther, être heureux à la fin ? Elle n'a pas une vie facile, Esther, mais à la fin, elle est heureuse. Ça se termine par un banquet, tout le monde est content. Comment on fait pour mettre au point, développer ce genre de vie-là ? Je voudrais voir trois orientations avec vous. Premièrement, par l'œuvre de Jésus. Deuxièmement, par la providence divine. Et puis troisièmement, par le choix de la foi. Commençons. Comment être heureux à la fin ? Par l'œuvre de Jésus. Le livre d'Esther annonce l'œuvre de Jésus. Il est connu, le livre d'Esther, pour une particularité. La connaissez-vous ? Ouais, plus fort par contre. Quelqu'un a dit quelque chose, plusieurs, mais... Oui, je vous comprends. Le nom de Dieu n'y figure pas. Et à un moment, certains ont dit, mais est-ce qu'on devrait vraiment le laisser dans la Bible, ce livre-là ? Est-ce qu'il a vraiment sa place ? Le nom de Dieu n'est même pas écrit dedans. Alors que le nom du roi Assuérus paraît à peu près 150 fois, quasiment. Et en réalité, ce livre d'Esther parle de l'œuvre de Jésus. Regardez un peu ça. Vous avez à l'esprit l'histoire d'Esther ? On fait un petit résumé. Un petit résumé, parce qu'on ne peut pas lire tout le livre comme ça. On est en déportation, on n'est pas en Israël. Le peuple a été déporté. Le roi a autorisé les Juifs à retourner en terre d'Israël, mais tous les Juifs n'y sont pas retournés. Certains, même beaucoup d'entre eux, sont restés disséminés, notamment dans le royaume de Perse, l'Empire Perse, et puis spécialement à Suse, la capitale. Ils avaient pris des habitudes, ils avaient peut-être une mission dans leur cœur à accomplir, et beaucoup sont restés. Et parmi ceux qui sont restés, eh bien, il y a une personne qui s'appelle Esther, une autre qui s'appelle, c'est un homme qui s'appelle Mardoché, et quelques-uns qui sont nommés. Le roi qui règne là s'appelle Assuérus ou Xerxès, ça dépend où on puise les références historiques. Mais ce roi-là, il est particulier, c'est un empereur, c'est-à-dire qu'il a soumis bien des royaumes à son pouvoir. Et c'est un roi de rois. Ça vous fait penser à quoi, ça ? Roi des rois. Et dans une certaine mesure, parce que tout est toujours partiel, dans une certaine mesure, le roi Assuérus représente Dieu, Dieu qui a l'autorité, Dieu qui gouverne sur toute chose, qui a pouvoir de vie ou de mort. C'est lui qui représente Dieu le Père. À ses côtés se tient un certain Aman. Vous le connaissez, Aman, il a été élevé là, mais son cœur est rempli de mauvais sentiments. Des sentiments de haine, de révolte, une volonté de détruire, un orgueil énorme, tellement immense que lorsqu'une personne ne se prosterne pas devant lui, il en devient fou de rage. Et lui, devinez qui il représente ? Le diable, notre adversaire à tous, Aman. Et en présentant les choses d'une certaine manière, Aman obtient du roi Xerxès la condamnation du peuple juif. Tout comme le diable, en se présentant devant Dieu avec nos péchés, obtient notre condamnation. La justice exige la condamnation du pécheur. Et le diable, lorsqu'il vient devant Dieu, dit « Regarde tout ce qu'il a fait, regarde tout ce qu'elle a fait. » Dieu ne peut pas dire autre chose que « C'est effectivement un pécheur, c'est une pécheresse. Et le salaire du péché, c'est la mort. Je ne peux pas tenir le coupable pour innocent. Tu as raison, ils doivent être condamnés. » C'est exactement comme ça que ça se passe. Et voilà, dans ce royaume, il se passe quelque chose, c'est que, un peu parallèlement, un peu dans la même période, en réalité un tout petit peu avant, il y a une sorte d'élection un peu particulière quand même dans le royaume. C'est que une reine est déchue et puis il faut trouver une nouvelle reine qui soit assez digne dans sa personne, assez belle, assez d'une présentation convenable, d'une intelligence suffisante, etc., pour être aussi un symbole dans le royaume, être le soutien de celui qui sera son mari, donc l'empereur lui-même. Et des jeunes filles sont rassemblées de tout l'environnement du palais. Elles sont préparées et pendant un an, on leur demande de se préparer avec de l'huile, avec des aromates, tout ça. Et au bout d'un an, elles sont préparées, elles sont présentées au roi. Et le roi les fréquente quelque temps pour voir si ça croche. Drôle de façon de faire, hein ? Je tiens à préciser, ce n'est pas la façon de faire que Dieu préconise. Soyons clairs, si quelqu'un dit « Ah bon, on peut ?» Non, on ne peut pas. C'est là que, par exemple, s'arrêtent les limites de la comparaison, les limites du parallèle. Mais ça se passe comme ça à ce moment-là. Et il y a une de ces jeunes filles qui s'appelle Esther et qui, elle, est préparée aussi, revêtue d'huile pendant des mois. Et venant, étant présentée au roi avec ce revêtement d'huile, cette onction, elle trouve faveur devant le roi. Tout comme Jésus-Christ, revêtu du Saint-Esprit, ayant pris le baptême, ayant offert sa vie terrestre à Dieu aussi, voit le ciel qui s'ouvre, une colombe qui descend et une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il trouve faveur aux yeux de Dieu. Et il avance. Esther rentre dans la présence du roi. Elle vit le mariage, elle vit la vie de palais, elle est retenue, c'est la reine. Et puis vient un jour où elle entend parler de l'édit, de la condamnation de tout son peuple. Et là, elle qui partage leurs conditions tout en partageant aussi la condition royale, hallucinant quand même, hein ? Comme Jésus-Christ partage aussi la condition humaine et la condition divine, elle, Esther, va, après un tout petit moment d'hésitation, prendre à cœur de faire ce qu'elle peut faire. Et au risque de sa vie, elle va entrer dans la présence du souverain. Alors qu'elle n'a pas été appelée au risque de sa vie, elle va entrer dans sa présence et elle va dire au roi, il se passe quelque chose, je voudrais t'en parler, viens donc manger à la maison, à mon palais, à moi, et je voudrais te parler de cette situation-là. Au risque de sa vie, elle s'avance pour plaider la cause d'un peuple qui est condamné à mort. C'est l'œuvre de Jésus qui entre, nous dit le livre adressé aux Hébreux, dans la présence de Dieu avec son propre sang, avec sa propre vie, pour obtenir le rachat d'un peuple nombreux dont nous faisons partie, mes frères et sœurs. Amen. C'est exactement ça ce qui se passe. Et puis, elle va demander le salut du peuple, et non seulement elle va obtenir le salut du peuple, mais elle va obtenir la victoire sur tous ceux qui étaient remplis de haine et d'envie de meurtre contre son peuple. Ça va être une victoire totale. Et suite à cette victoire totale, tous ceux qui auront été rachetés, tous les juifs de ces environs-là, vont se rassembler pour vivre le banquet dont nous avons parlé tout à l'heure, le banquet final. Un banquet final qui n'a pas eu lieu seulement une fois, mais qui se renouvelle tous les ans parmi le peuple juif à l'occasion de la fête des Pourim. C'est l'anniversaire de cette délivrance extraordinaire que Dieu a accordée à un peuple qui aurait dû disparaître de la terre. N'est-ce pas magnifique ? Et le fait que ce banquet se renouvelle d'année en année nous parle aussi de l'éternité dans laquelle nous allons entrer que nous allons commencer par le festin des noces, le banquet des noces de l'agneau, là-haut dans le ciel. C'est un parallèle extraordinaire. Et lorsque je vois que le livre d'Esther se finit bien, se finit dans la joie, je ne peux pas oublier de dire que si quelque chose doit bien se finir, si quelqu'un doit être heureux à la fin, il le doit, il le devra à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça, s'il vous manque un sourire sur votre visage, si vous voulez envisager une éternité de joie et de félicité, c'est par Jésus-Christ que ça passe. C'est lui qui fait l'œuvre. C'est ça, la clé, la première clé. Heureux à la fin par l'œuvre de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous conduit dans la joie éternelle. Tant que nous ne recevons pas Jésus comme notre sauveur et notre avocat, nous restons sous la menace de la mort. Mais si nous lui confions notre dossier, si nous lui confions notre cœur pour qu'il puisse plaider en notre faveur, il obtient gain de cause et il nous sauve de la mort. C'est le premier point. Comment être heureux à la fin par l'œuvre de Jésus ? Jésus dit « Je suis la porte, si quelqu'un veut rentrer, ça va forcément être par moi. » Si quelqu'un essaye de passer par ailleurs, ce n'est pas le berger, c'est un ravisseur, c'est trouble. Mais je suis la porte, passez par moi et vous entrerez dans la bergerie, dans la présence de Dieu, etc. Deuxièmement, je voudrais voir avec vous que si quelqu'un doit être heureux à la fin, et ça c'est le programme de Dieu pour nous, si quelqu'un doit être heureux à la fin, ce sera aussi par la providence divine. Comme c'est bon de pouvoir compter sur la providence divine. Le livre d'Esther est connu pour le fait que le nom de Dieu n'y soit jamais mentionné. Et pourtant, même s'il ne parle pas directement, il n'y a pas de prophète, de porte-parole, pas de révélation particulière, même si son nom n'est pas nommé, il est à l'œuvre. Et il fait, comme dit la Bible, concourir toutes choses d'avance au bien de ceux qu'il aime, au bien de ceux qu'il veut sauver, qui vont se laisser sauver par lui. Et ça se fait encore aujourd'hui. Et vous voyez que, avant que la menace soit promulguée, avant que la menace d'Aman qui veut tuer tout le peuple juif soit connue, déjà Dieu a placé dans le palais, au meilleur poste qui soit pour influencer un homme, la reine elle-même, son épouse, il a mis dans le palais la reine, une représentante du peuple juif, qui va pouvoir déminer tout ça avant que ça n'explose. Dieu a déjà placé ses pions. Je ne sais pas ce qui vous impressionne ce matin par rapport à votre avenir. Mais je voudrais vous dire, à cause des promesses de Dieu, que le Seigneur a déjà placé ses pions. Il a déjà placé dans votre environnement, il a déjà placé sur notre chemin devant, pour nous, dans notre projet immobilier, des architectes, des bâtisseurs, des autorités, des financeurs, des gens qui vont être touchés par le Seigneur, même pour participer au financement, à la construction du projet de l'Église. Parce que Dieu fait les choses comme ça. Quand il emmène son peuple quelque part, il place ses pions à l'avance. Et c'est seulement en marchant pas après pas que nous voyons comment Dieu a pu manifester sa grâce. Il le fait de manière nouvelle et glorieuse dans chaque génération, en tout cas parmi ceux qui se confient en lui, dans la foi. Mais alors même que la date de la mise à mort des Juifs arrive, parce qu'il y avait une date qui était arrivée, c'était justement le jour des Pourim. C'est là que les Juifs, partout dans la province, dans les provinces de l'Empire, devaient être mis à mort. Et avant même que cela n'arrive, Aman, le méchant Aman, rempli de violence, de haine, est tellement pressé de voir des Juifs mourir dans cette folie qui s'est emparée de bien des générations au fil de l'histoire de l'humanité. Une folie génocidaire, une folie meurtrière orientée vers le peuple de Dieu. Ce qui nous montre que l'esprit du monde est aussi l'esprit de l'antéchrist. Comment expliquer cette haine contre le peuple juif? Comment l'expliquer? Si ce n'est par le fait qu'il y a dans le monde un esprit qui est opposé au peuple de Dieu de manière générale. Qu'il soit le peuple du livre, les juifs, ou les peuples de l'alliance, les chrétiens. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais Aman a tellement hâte qu'il dresse déjà la potence pour que Mardoché puisse être pendu là, mis à mort là. Il a tellement hâte. C'est comme ça que ça se passe. Mais pendant que Aman est en train de faire monter la potence en bois à une hauteur terrible pour que celui qui va être pendu soit vu de tous et humilié devant tous, pendant que Aman est en train avec ses hommes de bâtir le gibet, eh bien, le roi est dans son palais. Et cette nuit-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas moyen de dormir. Il tourne d'un côté, il tourne de l'autre, il appelle des chanteurs, des joueurs de harpe. Il n'y a pas moyen, le sommeil ne vient pas. Il n'y a pas moyen. Alors, comme le sommeil ne vient pas, il dit, ben, on a une nuit à tuer là. Et il commande à quelqu'un de lui amener le livre des chroniques de sa vie, ses souvenirs, ses mémoires, tout ce qu'il a vécu, hein, si on se replongeait dans le bon vieux temps, avec les albums photos, tout ça. Le film des enfants, de quand ils ont bâti le palais. Amenez-moi le livre des chroniques. Et alors qu'il parcourt le livre des chroniques, il tombe sur le récit, et puis ça lui rappelle quelque chose, mais c'est vrai, il y a un homme dénommé Mardoché qui m'a sauvé la vie parce qu'il a entendu parler deux de mes gardes du seuil d'une conspiration. Il m'a averti, on a fait une enquête, on a vu que c'était vrai, et puis on a pu arrêter ça. Et d'ailleurs, ils ont été mis à mort, les deux conspirateurs. Et donc il dit, mais c'est, je lui dois la vie à lui, et qu'est-ce qu'on a fait au fait pour ce Mardoché? Et là il apprend dans le livre des chroniques, et puis parmi ses gouvernants, il apprend que rien n'a été fait pour récompenser ce Mardoché. Alors il dit, demain on va réparer ça. Alors que Aman est en train de lever la potence pour pendre Mardoché, le roi est en train de s'apercevoir qu'il a oublié de l'élever au niveau qu'il mérite, d'avoir un peu la reconnaissance et les honneurs qu'on doit quand même à celui qui a sauvé la vie de l'empereur. Alors le matin arrive, et le roi interpelle Aman et lui dit, Aman, si le roi voulait élever quelqu'un, l'anoblir et puis vraiment l'honorer aux yeux du peuple, qu'est-ce qu'il devrait faire? Et Aman, il croit que c'est lui. Alors il répond, il dit, si le roi veut faire ça, qu'il le fasse vraiment bien. Et puis, dans son rêve de grandeur et dans son orgueil immense, il dit, il faut qu'on selle des chevaux magnifiques, il faut qu'on les mette par 12, par 15, peut-être plus même encore, qu'on mette le plus beau char, et puis qu'on fasse monter l'homme avec des vêtements magnifiques sur ce char-là, et que devant lui, quelqu'un crie, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Il pensait que c'était lui. Mais le roi pense à Mardoché. Alors, avant d'aller manger le festin chez la reine Esther, le roi dit à Mardoché, « Ok, c'est ça qu'on va faire. Va, fais venir Mardoché qui est à la porte du palais souvent, et puis tu prends le plus beau char, tu prends tous les chevaux dont tu as parlé, et puis tu te mets toi devant le char et tu dis, en le montrant du doigt, « Ainsi fait-on à celui que le roi veut honorer. » Mardoché n'en peut plus. Il voulait le mettre à mort, et c'est lui qui se retrouve à chanter ses honneurs. À Aman, pardon. Aman n'en peut plus, il voulait tuer Mardoché, puis finalement il chante les honneurs de Mardoché. C'est terrible. Il y a la providence divine, il y a un plan qui est monté d'un côté, ouais, mais pas de chance. Tout est déjà d'avance mis en échec. La partie n'a pas commencé, mais tout est fait, c'est déjà échec et mat. Échec au tentateur, échec à l'accusateur, échec au péché, échec à l'épreuve, parce que Dieu a placé ses pions à l'avance sur l'échiquier. Il sait ce qu'il fait, c'est la providence divine. Et très vite, avec l'intervention d'Esther auprès du roi, les plans d'Aman sont déjoués et là où devait mourir Mardoché, c'est lui qui meurt le soir même. Il était pourtant en position de pouvoir 24 heures avant. Il régnait sur bien des choses, il gouvernait bien des choses dans l'Empire. 24 heures avant, et 24 heures après, le voilà pendu à une corde, comme un misérable. C'est incroyable ce que Dieu peut changer en quelques moments, quand on tient la place qu'il nous demande de tenir. Tout l'enjeu va être là. La provision divine n'est pas un mythe. Et dans les situations les plus tragiques ou les plus effrayantes de la vie, mon frère, ma sœur, nous devons croire et espérer dans la providence divine parce qu'il a non pas seulement ce qu'il faut à quelqu'un quelque part, mais il a ce qu'il faut pour nous maintenant. Il a ce qu'il faut pour vous. Quel que soit votre besoin, à l'intérieur, à l'extérieur, autour, il sait, il connaît, il possède et il donne. Il est l'auteur de la providence divine. Avant même que les épreuves ne s'abattent sur nous, Dieu a pris le temps de les préparer. Ce qui aurait pu nous tuer, nous abattre, il l'a enlevé. Et il a préparé aussi les issues, nous dit la Bible. Car notre Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, jamais. Mais avec l'épreuve qui pourra se présenter, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter et en sortir vainqueur. Amen. C'est le plan de Dieu. C'est la première chose, donc, comment être heureux à la fin, là où ça compte absolument par-dessus tout d'être heureux. Comment être heureux? C'est par l'œuvre de Jésus. Il n'y a pas de festin s'il n'y a pas l'œuvre de Jésus pour venir intercéder pour nous. Comment être heureux à la fin, pour l'éternité, par la providence divine? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? L'adversaire est mis en échec déjà par avance. Mais voilà, voyez ces choses, jusque-là on a l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus, elle ne dépend pas du tout de moi ni de vous. Nous ne pouvons rien y ajouter, ni rien en retrancher. Pas possible. Le Seigneur a déjà crié sur la croix que tout était accompli. On ne peut pas revenir dessus, ce qui est fait, et ça a été parfaitement fait. Amen. Donc, du côté de Jésus, il n'y a pas de problème, c'est fait. Du côté de la providence divine... C'est pas Mardoché ou quelqu'un d'autre qui a fait rentrer Esther comme dans un plan formé par les hommes. C'est vraiment un plan de Dieu. Que cette jeune fille-là, parmi des dizaines ou des centaines peut-être, ait été retenue, elle, juste. C'est Dieu qui a programmé tout ça. C'est Dieu qui le fait, indépendamment des actions des hommes. Mais maintenant, dans la troisième proposition que je voudrais vous faire, l'homme intervient, nous intervenons. Comment être heureux à la fin ? Par le choix de la foi. C'est la foi qui nous fait entrer dans notre destinée. C'est la foi qui nous fait entrer dans les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, c'est-à-dire que personne n'a imaginé de son propre gré. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, et c'est par la foi qu'on y entre. C'est par la foi et la persévérance que les hommes de Dieu, de tous les âges, ont pu hériter des promesses. Et c'est encore aujourd'hui, par la foi et la persévérance, que les hommes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes vivront encore le secours et la grâce de Dieu dans leur génération pour finir pour l'éternité avec un sourire énorme sur le visage et toute la joie de Dieu au fond du cœur. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, je n'ai pas le chiffre, ce n'est pas le chiffre qui nous intéresse, c'est que ferons-nous nous-mêmes. Mais beaucoup d'enfants de Dieu passent toute leur vie en dehors du plan de Dieu pour nous. Non pas en dehors du salut, mais en dehors des œuvres dans lesquelles Dieu aurait voulu les voir s'investir et s'impliquer. En dehors des moments de semailles et de moissons dans lesquels le Seigneur les appelait à tantôt verser des larmes, tantôt chanter des chants d'allégresse comme jamais. Beaucoup de chrétiens passent à côté de ça. Ils prennent le salut en Jésus et essayent de mener leur vie dans le monde, comme le monde, en restant sauvés quand même. Quelle triste vie ! C'est si peu par rapport à ce que le Seigneur voudrait faire. Le choix de la foi. Le choix de la foi, il se fait toujours quand il y a une menace. S'il n'y a pas une menace, s'il n'y a pas un risque, s'il n'y a pas un danger, ce n'est pas de la foi. Pas vrai ? Quand tout va tout seul, ce n'est pas de la foi. C'est de la facilité. C'est une évidence. Et la menace pour Esther, c'était celle d'une mort violente. Pour elle et tout son peuple, dans un déchaînement de folie comme on peut en voir dans certains mouvements populaires. Pour nous aujourd'hui, les menaces dont on entend parler sont diverses. Si vous écoutez des sociologues, ils vous parlent de leur inquiétude pour la France. Parce qu'ils sentent qu'il y a quand même beaucoup d'ingrédients qui sont rassemblés. Et puis il se trouve qu'on a regardé la composition de la TNT, la dynamite. Et à peu près tous les éléments qui sont nécessaires à la dynamite sont là, ensemble. Ce n'était pas voulu, mais tout est là. Et les sociologues s'inquiètent pour la société française, voire même dans certains moments pour tout un pan de la société occidentale. Les sociologues s'inquiètent. Les gilets jaunes que nous avons croisés tous, je pense, ces derniers jours, sont un mouvement sans chef qui exprime par des moyens parfois mal choisis, ça c'est sûr, une peur, une misère, une révolte, mais aussi une soif de vie et de justice. Une soif de sens, une soif de quelque chose de plus. On a une société qui est là. Et la menace, le risque, l'insécurité, elle est là. Si on laisse parler des économistes avec leur logique à eux, leur compréhension des choses, ils nous disent aussi qu'ils ne sont pas très très rassurés. Si on écoute des écologistes, non pas seulement que ce soit des férus d'eux, mais des défenseurs de l'écologie, de l'équilibre de la planète. Vous entendez, comme on l'a entendu à peu près tous, je pense, dans ces dernières semaines, que 60% des animaux sauvages de la planète ont disparu en 44 ans. Si vous écoutez les climatologues, ils vous disent qu'il ne faut surtout pas qu'on dépasse 1,5°, 2°, parce qu'à un moment, ça va s'auto-amplifier tout seul. Ça va devenir ingérable. Et à un moment, si on passe ce cap-là, la fonte des glaces, la fonte du permafrost va libérer des quantités de gaz, de méthane notamment, dans l'atmosphère, des quantités telles que là, on va passer un cap de plusieurs degrés en quelques années dans le réchauffement. Et tout va encore s'accentuer, tout va encore s'accélérer. Si on écoute tout ça, et nous, chrétiens, ça nous permet de comprendre dans quel temps nous vivons. Nous, chrétiens, nous voulons reconnaître que la menace ultime, c'est celle de la mort éternelle. Ça, c'est la menace ultime. Et nous voyons deux choses dans les temps que nous vivons. Nous voyons que le temps est court, mais nous voyons qu'il fait encore jour. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Le temps est court, c'est une évidence. Mais il fait encore jour. Et tandis qu'il fait jour, il faut que, malgré la menace, nous sachions aller nous engager dans les œuvres de Dieu. Il y a la menace, il y a l'incertitude. Dans Esther, vous avez le livre au chapitre 4, verset 14. Dans la deuxième partie de ce verset, Mardochée vient d'informer Esther de l'acte, de l'édit mortifère qui a été émis. Tous les Juifs vont être mis à mort. Et Esther entend ça, elle dit, je voudrais bien faire quelque chose pour vous. C'est là aussi que s'arrête la limite, hein. C'est là aussi qu'on touche la limite de la comparaison avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais là, Esther commence à dire à Mardochée, je voudrais bien faire quelque chose, mais je ne peux pas. Parce que tout le monde dans le palais sait très bien que si quelqu'un, même la reine, se présente, s'avance dans la présence de l'empereur sans avoir été appelé par son nom, c'est la peine de mort, à moins que l'empereur tolère cet affront et ne tende son sceptre à la personne qui s'approche sans avoir été invitée. Alors elle commence à dire, mais tu connais pas les règles du palais, toi, mais moi je les connais. Et Mardoché va lui tenir un discours qui doit nous interpeller, nous aussi, aujourd'hui. Et il lui dit, hey, Esther, qui sait, Esther 4, 14, deuxième partie du verset, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait? La vérité, c'est que Mardoché n'exprime qu'une hypothèse, ce n'est pas une parole de Dieu. Ce n'est pas ainsi parle le Seigneur, c'est pour ça. Il dit, qui sait? Et combien de fois dans la vie, nous regardons les circonstances qui nous environnent, les opportunités, les risques, les menaces, les bénédictions, on regarde tout ça, puis on se dit, mais qui sait si ça ne vient pas de Dieu, ça, cette bénédiction? Ou qui sait si cette épreuve aussi ne vient pas pour... Qui sait? Qui sait? Nous ne savons pas toujours où nous mènent les chemins sur lesquels la vie semble nous engager. Et il y a une incertitude. Personne ne sait. Est-ce que c'est Dieu qui a placé Esther là, ou est-ce que ce n'est pas Dieu? Seulement à un moment, parmi tous ceux qui ne savent pas, il va falloir que quelqu'un choisisse ce qu'il va croire. On peut croire que c'est le hasard. Et si on croit que c'est le hasard, on va nulle part. Parce que si c'est le hasard, Esther, elle va se cacher dans un coin, elle va vérifier que tous ceux qui savent que c'est une juive sont bien morts. Vous voyez où ça va l'emmener? Si elle n'a pas la foi, si elle ne croit pas que c'est Dieu qui l'a placée là, elle va se protéger elle va laisser mourir, et peut-être même qu'elle va aider certains à mourir pour être sûre qu'elle ne soit jamais découverte elle. Et qu'elle puisse mener sa vie de reine encore longtemps. Mais si Esther choisit de croire que c'est Dieu qui l'a placée là, elle va adopter un comportement complètement différent. Elle va s'engager, elle va s'impliquer, elle va se mouiller, elle va prendre des risques. Elle va se positionner dans l'affaire. Elle va prendre un risque par rapport à sa propre vie. Le Seigneur aussi a une œuvre de salut et de délivrance à accomplir encore dans la ville de Caen. La ville de Caen et les environs qui contiennent plus que jamais, plus d'âmes à sauver que jamais dans l'histoire du passé. Il n'y a jamais eu autant de population dans la région de Caen. Toutes ces âmes-là sont à sauver et Dieu veut les sauver. Il va se glorifier, mes frères et sœurs. Et dans le début de ce verset-là, que nous n'avons pas lu en entier, Esther 4, 14, Mardoché dit, si tu te tais, si tu ne fais pas ce que tu as à faire, tu sais, Dieu va quand même faire quelque chose, mais toi tu mourras. Tu mourras dans ton incrédulité, tu mourras dans le regret d'être passé à côté du plan de Dieu, tu mourras dans un éloignement du Seigneur. Et tu dis, Dieu va le faire quand même, mais ce serait tellement tragique qu'il le fasse sans toi. Que tu passes à côté de l'occasion de servir Dieu et d'être un outil pour la manifestation de son plan dans ta génération. Il va se glorifier, il va se faire connaître, il va utiliser tous les talents qui seront mis à sa disposition. Il va remplir les vases purs, il va les utiliser pour des usages nobles. Et qui sait si vous-même, mes frères et sœurs, vous n'avez pas un rôle à jouer dans le plan du Seigneur? Faut-il attendre pour voir? Des fois, on dit, on va voir. Oui, mais attends, on fait quoi pour voir? On attend? La Bible ne dit pas, si tu attends, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Si tu crois, si tu marches par la foi, oui, mais attends, la foi, c'est quand on choisit de voir une chose comme étant conduite par Dieu et non pas par les circonstances. Oui, c'est aussi ça la foi. C'est croire que Dieu est dans l'affaire, quand bien même on pourrait penser que c'est pas sûr. C'est ça la foi. La foi, c'est se mouiller quand il y a un risque. La foi, c'est se mettre en danger, sans avoir la garantie que peut-être la foi, c'est ça. C'est aussi ça. La foi. Le choix de la foi, malgré l'incertitude. Il ne faut pas attendre pour voir, il faut croire pour voir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas réagir d'une manière différente. Tu vas t'engager, tu vas t'impliquer et tu vas être, comment dire ça, contributeur, co-réalisateur du plan de Dieu. Par tes actions de foi, tu vas faire accomplir le plan de Dieu. Alors que la même personne remplie de doute peut, par ses actions de doute, par ses paroles de doute, par ses gestes de doute, d'autoprotection, de repli sur soi, faire arriver littéralement l'inverse des plans de Dieu, les plans du diable. Vous le croyez? C'est dans des cœurs remplis de doute que le diable fait le plus son trou et son œuvre. Mais lorsque la foi l'emporte sur le doute, c'est l'œuvre de Dieu qui se fait. C'est comme ça. Et Esther, elle est à ce moment où elle mesure le prix à payer, l'engagement que ça pourrait lui demander, où ça pourrait la mener. Ça peut être merveilleux et ça peut être terrible, les deux. Alors, il va se passer quand même quelque chose de beau, qu'on verra tout à l'heure, lorsqu'elle fera son choix. Mais elle est dans ce moment où il y a l'incertitude. Il y a l'espoir que Dieu soit dans la situation, mais il n'y a pas la certitude absolue. Mais je choisis la foi. Je crois que Dieu m'a placé là, que ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas ma beauté, ce n'est pas moi, mes capacités, mes talents. C'est Dieu qui m'a placé là. Je choisis de voir les choses comme ça. Et je vais œuvrer, non plus comme une personne, mais comme un outil entre les mains de Dieu. La parole qui dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Elle s'adresse à nous tous. Elle s'adresse à des jeunes. « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu a mis entre vos mains ?» Plus de moyens de communication, plus de moyens technologiques et autres que personne n'en a jamais possédé dans l'histoire de l'humanité avant vous. Qui sait ? Tu peux le voir en disant « Mais c'est le hasard, c'est l'évolution. » Et alors tu vas utiliser la technologie pour te distraire. Peut-être même pour te rendre dépendant de jeux vidéo ou de plein d'autres choses. Et alors, si tu vas dans le doute, les moyens technologiques vont devenir un lien sur toi et vont faire l'œuvre du diable dans ta vie. Mais si tu vas dans la foi et que tu dis « Seigneur, c'est toi qui as mis ça entre mes mains » et que tu dis « Je vais m'en servir, je vais développer des compétences, puis je vais mettre ce talent-là entre tes mains », eh bien, avec ce qui aurait pu te détruire, tu vas communiquer l'évangile. Tu vas communiquer la bonne nouvelle avec tes codes à toi, avec ton langage à toi, avec tes moyens, à ta génération. Et beaucoup vont être sauvés. Mais tout commence comment ? Est-ce que c'est le hasard qui a mis tous ces instruments-là entre mes mains, tous ces moyens de formation, de communication, ou est-ce que c'est Dieu ? Dieu ou le hasard ? Si tu crois que c'est Dieu, et si tu te comportes conformément à cette foi-là, tu vas porter un fruit abondant et tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas que c'est Dieu et que tu fais servir tout ça à ton intérêt parce que tu dis « ouais, mais on n'est pas sûr », ça va se retourner contre toi et ce qui était censé te distraire va te détruire. Ce qui était censé t'ouvrir un peu l'horizon va t'enchaîner. Alors que si tu vas dans la foi et que tu apprends à manier cet outil-là pour Dieu, tu vas faire des choses extraordinaires. Pour les anciens, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui que nous vivons, où les choses bougent autour de nous ? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, où le besoin de soutien spirituel par l'intercession est immense, que vos forces vous ont été reprises, que vous n'avez plus la force de faire vraiment beaucoup de choses, mais qu'il vous reste la force de prier et de vous tenir sur vos genoux ? Si c'est le hasard, si c'est l'évolution ou la destruction du corps à cause de l'âge et de l'usure du temps, eh bien, on va se recentrer sur nous et puis on va se prendre une retraite exactement comme les gens du monde la prennent. On sort du lit, on va au petit-déj, on va au canapé, on regarde ce qu'il y a, on va à la boîte aux lettres, on prend le journal et le courrier, on regarde, on passe un ou deux coups de fil à quelques personnes, savoir comment elles vont, on mange le repas à midi moins le quart. Et puis une fois que le repas est terminé, on retourne dans le canapé un petit peu. Et puis on va faire une petite promenade. Et puis on va aider un peu les enfants à un moment ou à un autre. Ça, mes frères et sœurs, c'est la façon dont vivent ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Lorsque nous regardons les choses comme étant le résultat d'un hasard ou d'une loi sociétale ou je ne sais quoi, on se comporte comme tout le monde. Mais si la foi me permet de reconnaître dans ce qui se passe une conduite de Dieu pour que dans ma situation de disponibilité en tant que retraité, je puisse me tenir sur mes genoux ou d'autres choses. C'est peut-être une application, l'application la plus simple qu'on puisse donner, la disponibilité dans la prière. Mais ça peut être plein d'autres choses. C'est encore là l'enjeu, c'est est-ce que dans cette situation qui peut être normale ou conduite, est-ce que je vais croire que ce sont les statistiques ou le hasard qui ont conduit ma vie ou est-ce que c'est Dieu qui a conduit les choses comme ça ? Si nous sommes dans la foi, nous allons porter un certain fruit. Mais si nous doutons que Dieu soit dans l'affaire, nous ne porterons pas du tout le même fruit. Les énervés. Il y a des énervés au milieu de nous. N, nouveau. R, retraité. Parce que tout à l'heure, on parlait vraiment des anciens qui n'ont plus la force de faire. Mais il y a des énervés. Nouveau, retraité, vigoureux. N, R, V. Et les nouveaux retraités vigoureux, ce n'est pas seulement ceux qui ont fêté leur fin de carrière à moins de 3 mois ou 6 mois en arrière. Les énervés, ça va jusqu'à ce que les forces soient encore là, quoi. Jusqu'à ce que vous avez encore de l'énergie, du temps, du jus, des compétences, des réseaux de relations bien installés. Et ça, c'est précieux. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu vous permet de disposer de tout le temps que pendant des années vous avez été contraint d'offrir à votre patron. Et là, vous pouvez en disposer pour l'œuvre de Dieu. Qui sait ? Soit c'est les lois de la retraite, j'ai fait mes annuités, maintenant je fais ce que je veux. Et si c'est comme ça, ben, c'est comme ça que font les autres sans Dieu. Hein. Non, pas la foi, ils fonctionnent comme ça. Mais nous, avec la foi, nous devons essayer de reconnaître comment Dieu nous a placés, pourquoi il nous a placés dans ces circonstances-là, et qu'est-ce que ça appelle comme comportement de notre part pour faire avancer son royaume et sauver un peuple nombreux autour de nous. C'est tout un défi, parce que là, on ne dit pas « Vas-y pasteur, avance-toi, vas-y toi, va voir le souverain, rentre dans sa présence alors que tu risques ta vie, vas-y toi !» Mais c'est nous, c'est chacun de nous, les anciens, les jeunes, les énervés, les célibataires. Les célibataires, si c'est une injustice qui t'est faite, bah, tu peux pleurer longtemps. Puis ça, je méprise absolument pas la souffrance des célibataires, le manque et la solitude, l'espoir et la peur qui peuvent se mélanger. Mais si c'est le hasard qui a fait de vous des célibataires, bah, vous êtes vraiment malheureux et malheureuse. Mais, si Dieu est dans l'affaire, si Dieu a prévu toute chose et qu'il tient vraiment vos vies entre ses mains, bien, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu vous a rendu disponible, capable de vous impliquer dans son œuvre comme des gens mariés ou parents ne peuvent pas le faire. Pourquoi ne pas voir les choses dans la foi? Pourquoi ne pas oser la foi, là même où aucun prophète ne s'est exprimé pour amener une parole de Dieu signée en bas, mais dire « je choisis », alors que je pourrais dire « qui sait ?» Qui sait si ce sont les événements, si c'est Dieu? Je choisis la foi. Ceux qui se découvrent des talents actuellement, les nouveaux arrivants, on est heureux de vous voir, ce que j'appelle les nouveaux arrivants, c'est ceux qui ne sont pas encore habitués beaucoup à la vie de l'Église. Ce que nous regardons, nous, en disant, ben c'est qui eux? Voilà les nouveaux arrivants. On est heureux de vous avoir, mais soit c'est le hasard qui vous a conduit ici, puis vous pouvez mener une vie chrétienne pépère juste dans les rangs. Vous venez, vous écoutez, puis à la fin de la matinée, vous mettez une note. Oh, ce matin, c'était, combien tu mets toi? 6. Moi, 8. Ah bon, pourquoi? Et on discute de pourquoi on a mis 6, pourquoi on a mis 8 sur 10. Et puis, allez, on va voir la semaine prochaine si on fait un meilleur score. Mais ça, si c'est le hasard qui nous met là, si on vit les choses comme si nous n'avions aucun pouvoir sur elles, nous allons vivre le désengagement, et le fruit du désengagement, c'est la déception. Mais si nous croyons que Dieu nous guide, et si vous croyez que Dieu vous a amené ici ce matin, et qu'il a une place, un rôle à vous confier dans ce qu'il va faire demain, et qui n'est pas la reproduction, bête et méchant, pardonnez-moi, de ce qui s'est fait hier, même si ce qui s'est fait hier n'était absolument pas du tout bête et méchant, je parle de la reproduction, je préfère être clair, mais même si Dieu fait quelque chose de différent demain, c'est avec des choses et des personnes nouvelles aussi qu'il va le faire, avec notre génération, avec tous ceux qui vont s'impliquer. Seulement la question de base, c'est qui sait si c'est Dieu qui m'a amené là ou si c'est le hasard? Oui, dans cette mutation, oui, dans ce rapprochement qui s'est fait à l'occasion de ci ou de ça. Soit tu vois le hasard et puis tu continues à ne pas porter de fruits, soit tu vois une conduite de Dieu et tu t'investis de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, parce que pendant que tu es vivant et pendant que tu as des forces, tu ne peux rien faire de mieux que de servir Dieu. Amen. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est maintenant. Alors on est heureux de vous accueillir, mais ça, c'est la parole du pasteur, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Mais la parole de Dieu, c'est choisis. Si tu regardes énervé, célibataire, jeune, ancien, avec des forces qui manquent à l'appel parfois, ou autre cas de figure, choisis si tu veux porter sur les événements un regard de doute et d'incrédulité, ou si tu veux porter sur les mêmes événements un regard de foi. Le regard de foi, si tu fais le choix de la foi, tu vas entrer dans les œuvres de Dieu. Ces œuvres que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, des choses qui ne sont pas montées dans les projets. Tiens, si on faisait ça, ça ne vient pas des hommes, c'est l'œuvre que Dieu est en train de faire. Elle nous dépasse tous. Si tu fais le choix de la foi, tu vas entrer dans ces œuvres-là. Mais quel regard porterons-nous sur notre génération, sur notre monde, sur notre Dieu, sur ses intentions de sauver? Que le Seigneur, ce matin, nous remplisse de foi. Car la foi active un processus vertueux qui nous fait entrer dans notre destinée. Lorsque je regarde Esther, et je termine avec ça, lorsque Esther a choisi la foi en disant « Ok, admettons que c'est Dieu qui m'est placé là. Si c'est Dieu qui m'a placé là, il faut que j'intervienne. Mais si je dois intervenir et risquer ma vie, je ne vais pas le faire sans avoir pris le temps de prier et de jeûner. » Et Esther, en prenant une décision personnelle, se retrouve à entraîner ses servantes dans un jeûne et prière de 3 jours. Et non seulement ses servantes, mais elle dit par Mardochée que tous les Juifs qui sont à portée de courriel dans la capitale et ailleurs, que tous les Juifs qui sont à portée de téléphone jeûnent et prient pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, je me lèverai, j'irai, et c'est Dieu qui accomplira la suite de sa volonté. Le choix de la foi a amené Esther à intensifier sa vie spirituelle. Le choix de la foi va amener Esther à développer une influence bénie, bénéfique sur ceux qui l'environnent. Le choix de la foi va l'amener aussi à passer à l'action. Et puis, c'est en passant à l'action qu'elle va avoir la confirmation qu'effectivement, c'était bien Dieu qui l'avait placée là pour ce but-là. Mais comment aurait-elle pu le savoir autrement qu'en s'engageant, en y allant par la foi ? Et elle a pu goûter à la fin de tout cela à une joie qu'elle n'aurait jamais connue sans prendre le risque de la foi et sans prendre un risque énorme, sans s'engager complètement. Que le Seigneur nous aide. Ce matin, on est plus, voyez, dans une étude de livre avec une pensée de Dieu. Il y a trois composantes. Si nous voulons être heureux à long terme, heureux à la fin d'un projet, à la fin de la vie, à la fin de quoi que ce soit, il y a trois choses. L'œuvre de Jésus, elle est irremplaçable. La deuxième, il y a la providence divine sur laquelle nous pouvons toujours compter lorsque nous sommes dans ses voies. Mais la troisième, c'est le choix de la foi. Et certainement, ce matin, le Seigneur nous défie-t-il, vous et moi encore, d'une manière ou d'une autre, collectivement ou individuellement, à poser un regard de foi sur le moment que nous vivons et sur les circonstances qui nous entourent. Amen. Voulez-vous vous lever le temps d'une prière avec moi, s'il vous plaît, avant que nous passions à quelques communications ? Alléluia. Nous te prions de nous conduire, Seigneur. Merci pour ton appel. Seigneur, ce matin, c'est pas une distraction, c'est pas une friandise que tu nous donnes, c'est un appel solennel. Un appel à nous engager par la foi, afin de faire arriver littéralement tes œuvres et d'en cueillir le fruit par la suite. Nous sommes dans une génération qui bouge énormément, avec beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incertitude. Comme Esther a pu connaître, qui sait ? Qui sait pourquoi les choses sont en train de se passer comme ça ? Nous, nous voulons poser sur ces événements un regard de foi. Et cette foi, nous voulons qu'elle nous amène à nous engager, à revoir nos façons d'être et de faire, de nous traiter nous-mêmes, de nous centrer sur nous-mêmes, afin de nous centrer sur l'œuvre de Dieu, afin de participer à tout ce que tu veux faire dans notre génération. Car tu n'as pas fini de sauver, tu n'as pas fini de guérir, tu n'as pas fini de te révéler, d'appeler et de te glorifier dans cette région de Caen. Merci Dieu notre Père dans le nom de Jésus. Amen. Amen.